Voilà, je vous invite à la prière pour que le Seigneur puisse nous parler à travers sa parole. Notre Dieu et Père, nous te louons parce que tu es le Maître absolu, tu es notre Seigneur. Nous sommes soumis, Seigneur, vraiment à ta souveraineté et nous le reconnaissons et nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée, qui est esprit et vie. Seigneur, nous voulons vraiment la méditer ce matin, la recevoir comme telle et la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à quelques lectures avant que je les commente. C'est la suite de Matthieu 13, donc on va prendre juste les derniers versets de Matthieu 13, enfin les versets 52-58 exactement. Matthieu 13, 52-58, hein, c'est le fameux scribe dont on parlait, que j'ai introduit par les paraboles du royaume, et la réponse de Jésus. Jésus leur dit, donc Matthieu 13, 52, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés, et il disait, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ? » Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. En passage, c'est ce fameux verset 55-56 qui embête l'Église catholique romaine, puisqu'il est parlé des frères et des sœurs de Jésus. Donc Marie n'est pas restée vierge comme ils le prétendent. Mais bon, ils savent toujours contourner les choses, ils disent que c'est des cousins, des cousines. Voilà. C'est leur manière de d'éluder la difficulté. On va lire un autre passage dans 2 Corinthiens, cette fois-ci, dans la deuxième... Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 27, 2 Corinthiens 4, verset 27. Vous savez que les évangiles, on a lu dans Matthieu, il y a 4 évangiles, 4, il n'y a pas de 27, alors c'est 4-7, pardon. J'ai lu un peu vite, 4-7. Je vais le lire tout de suite, simplement pour dire que les évangiles, on a lu dans Matthieu, c'est la vie de Jésus, c'est le ministère de Jésus, et les épîtres, donc là on va dans les épîtres c'est ce qu'on appelle l'apologétique, c'est la défense de la foi. Donc les apôtres défendaient la foi, ils n'apportaient rien de nouveau par rapport aux évangiles, mais ils défendaient la foi, ils expliquaient la foi. Voilà. Donc souvent les épîtres nous permettent de comprendre les évangiles. C'est un parallélisme que je voulais faire. Donc 2 Corinthiens 4, verset 7, il est dit, je vais lire à partir de verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle à aveugler les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Pardon, c'est verset 4, oui, je vais lire jusqu'au verset 7. « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ah, c'est le fameux trésor, hein, dont Jésus parle. Il revient ici, hein, dans Paul, qui explique que nous portons ce trésor, hein, donc le trésor de ce scribe qui a trouvé ce trésor, nous le portons dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure, donc c'est une puissance qui est au-dessus de nos propres moyens, nos moyens naturels, qu'elle soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et on va aller dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre premier. Première épître aux Corinthiens, chapitre premier. Et nous lirons le verset 17 à 25. Non, pas tout ça. On va juste lire le verset 27. Non, juste le verset 25. C'est pour écourter un peu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, donc question de sagesse, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et au verset 30, Or c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je relis. Or c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui lui-même, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Là, il y a un mot capital, un mot central, qui est le mot sagesse. Ce matin, le Saint-Esprit a conduit Samuel à parler de la sagesse. Effectivement, c'est le maître mot qui va nous conduire dans cette prédication, qui d'ailleurs est un peu une ébauche, hein, vous êtes un peu les cobayes, parce que je n'ai pas encore rodé cette prédication-là, donc c'est un petit peu les éléments de base que je vous dirai, ce que le Saint-Esprit va me montrer ce matin. En fait, le problème du chrétien, parce que là, c'est un problème du chrétien, et le chrétien évangélique en particulier, pour lequel je réfléchis dans cette apologétique, dans la défense de la foi, hein, parce que notre foi est toujours mise à l'épreuve, hein, et si on vacille dans la foi, on tombe dans notre propre argumentation, dans notre propre raison, dans notre propre raisonnement, et on en est tous là, hein, et certaines épreuves, parfois, nous font vaciller par rapport à la foi. Donc pour rester dans la foi, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut une église, hein, il faut une vie de prière personnelle déjà, et puis il faut une église qui soit dans la foi, dans la dynamique de la foi. Et très souvent les églises flanchent pour différentes raisons, hein, et je vais essayer de vous donner un peu une des raisons qui est la notion de sagesse. Il est dit que Dieu a fait de Christ, eh bien, la sagesse de Dieu pour nous. C'est quoi la sagesse? Alors, c'est un thème philosophique, hein, je n'aborderai pas, mais c'est quelque chose, il faut bien comprendre que cette sagesse renvoie à une réalité. Christ est une réalité, hein, c'est une personne qui est réellement venue, hein, et ça c'est le message central du christianisme, qui est réellement venue sur terre, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, qui a vécu en tant qu'homme, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, qui a connu les choses comme nous, donc Dieu s'est fait vraiment mis à notre portée, et il nous a amené au travers de son œuvre le salut. Salut voulant dire dans la Bible pas simplement aller au ciel, hein, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui réduisent ça au fait d'aller au ciel. Du moment qu'ils vont au ciel, après ils font de leur vie ce qu'ils veulent, etc. Parce que une fois sauvé, toujours sauvé. Bon, c'est un principe avec lequel je suis pas d'accord. Les Ménonites non plus d'ailleurs. Hein, les Ménonites sont ceux qui étaient originaires de Zwingli. Hein. Vous savez que au moment de la Réforme, il y a eu Luther, Calvin et Zwingli. Il y en a qui ont entendu parler de Zwingli? Non? Non. Bah, Zwingli, il est né en Suisse, il était à Zurich, je crois, mais Zurich, et il n'était pas d'accord avec Luther parce que il a dit sa réforme ne va pas assez loin. Luther a fait un certain nombre de compromis, ce qui d'ailleurs lui a permis de sauver sa tête, bon, en dehors du fait que Dieu l'a gardé, hein. Mais il y a bien d'autres réformateurs avant lui, Jean Hus, par exemple, qui a terminé sur un bûcher, ce qui a failli aussi arriver avec Luther, tout simplement parce qu'il a mis un peu de l'eau dans son vin, hein, et Zwingli n'était pas d'accord, il voulait une méthode plus radicale, enfin une réforme plus radicale, parce qu'il continuait à baptiser les bébés. Luther, hein, et les luthériens aujourd'hui continuent à baptiser les bébés. Zwingli a dit non, il était anabaptiste, donc contre le baptême des enfants, en disant il faut que ce soit des gens adultes qui prennent le baptême, parce que leur foi va se mettre en action, enfin tout ce que nous croyons. Hein. Et donc c'est l'origine des Ménonites, en fait. Donc les Ménonites remontent aux anabaptistes. Hein. C'est une méthode plus radicale parce que pourquoi le baptême des enfants était si important? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de registre d'état civil comme aujourd'hui. Hein, c'est la Révolution qui a passé par là. Mais avant, c'était l'Église qui enregistrait les bébés et qui enregistrait, qui savait le nombre d'habitants qu'il y avait, qui joue sur les taxes, savoir de comment la population d'un pays. Qui paraît légitime comme nécessité. Mais c'est l'Église qui le faisait. Donc l'Église devait coopérer avec l'État. Et donc du coup, dès qu'il y a coopération, il y a compromis. Voilà. Il faut faire des compromis. Bon. Et Luther a fait cela. Donc il avait les seigneurs avec lui qui l'ont gardé contre la puissance du Vatican. Il a pu rester en vie un peu comme ça. Zwingli, non. Il a dit non. C'est pas biblique. La Bible dit que, etc. Voilà, ce que vous connaissez sur le baptême. Et en fait, bon, il est mort, bien sûr, bêtement un petit peu, mais bon, il a été chargé par les armées, etc., de Suisse, qui étaient contre cette réforme. Tout ceci pour dire, je sais plus quoi, mais c'est une petite voilà, que les Ménonites, ils ont, disons, c'est nos racines. Hein, ils ont toujours aujourd'hui un peu cette radicalité. Mais peut-être un peu trop parce qu'il faut de la souplesse, parce que c'est une sagesse qu'il faut savoir jouer. Et même si on a une vérité à un moment donné, on peut glisser. On peut glisser. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, c'est ce glissement qui attend chacun de nous lorsqu'on se détourne un peu de la foi véritable, qui est tout simplement la relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. L'union avec Jésus-Christ, avec une personne, et non pas avec des concepts, avec des pensées humaines. Et c'est là le danger. Et c'est ce que Jésus voulait dire par ce scribe, hein, qui a découvert ce trésor. Hein. Alors je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, la fonction du scribe. Donc déjà, le scribe avait un certain nombre de fonctions de base. Donc, vous l'avez dit, il était... Celui qui connaissait la loi de Dieu, donc la parole de Dieu, il la connaissait. C'est une grande fonction qui lui prenait beaucoup de temps. Hein. Il y avait beaucoup d'études hein, pour être un scribe. C'était pas comme ça. En plus, attention, à l'époque, les scribes connaissaient toute la loi par cœur. Hein. Nous, on a du mal à se rappeler certains versets. Ils les connaissaient par cœur complètement, hein, parce qu'il n'y avait pas les iPods, bien sûr, il n'y avait pas, mais même pas les écrits. Il n'y avait pas de papyrus, enfin il y avait très peu, hein, c'était gravé souvent. Bon, enfin bref. Donc ils apprenaient à connaître la loi. La deuxième chose, c'est qu'ils enseignaient. Ils enseignaient, ils étaient des enseignants, hein, des étudiants, mais aussi des enseignants de la loi. Donc ils savaient comment l'expliquer, puisque c'est eux qui la connaissaient, etc. Et il y avait une troisième fonction, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé, qui est très importante aussi à se rappeler, qui est liée à la sagesse. La troisième fonction du scribe, hein, à l'époque, c'était donc connaître la loi, enseigner la loi et oui, bon, ça va avec la notion de transmettre, écrire, l'appliquer. Oui, alors tu es sur la bonne piste, mais non, c'est être juge. Ils étaient juges parce que vous savez qu'en Israël, c'est pas pareil. Enfin, le peuple d'Israël n'avait pas la même constitution qu'un peuple païen. De l'époque, hein, c'est que Dieu prenait en charge toute la vie du peuple hébreu. Pas simplement la vie religieuse, mais la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, vous savez qu'il y a toujours des conflits entre les personnes. Ok? Vous croyez qu'il n'y avait pas de conflits à l'époque? Il n'y en a que maintenant? Il y en a toujours eu. Donc il fallait séparer, hein, il fallait des juges. des gens qui venaient en disant, moi je suis pas d'accord, il y en a un qui a marché sur ma propriété, qu'est-ce que je fais, etc. Enfin bref, donc ils exposaient leur cas devant le scribe, qui lui connaissait la parole, la loi de Dieu, parce que Dieu aussi, il y en a qui connaissent bien les Lévitiques, les Deutéronomes, tout ça. Pas trop. Mais c'est des textes de loi qui donnaient des choses très précises, souvent des détails. Vous savez, récemment, comme moi je travaillais dans le spatial, je me suis intéressé à ça. Quand le premier cosmonaute israélien a été envoyé dans l'espace, il y a eu un gros problème pour les rabbins. C'était lequel ? Un énorme problème pour les rabbins. Et ils se sont tous réunis pendant, je sais pas, ça a duré des mois jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution. C'est quoi le gros problème des rabbins? Parce que ils sont toujours sous cette constitution de gérer la vie quotidienne des juifs. Et il se trouve que ce cosmonaute était juif pratiquant, donc il fallait régler un problème. C'était quoi? Voilà, pourquoi le Shabbat? Bah parce que le soleil, en une journée, il le voyait plusieurs fois se coucher, se lever. Donc, pour calculer à quel moment c'était le Shabbat, c'était un problème, parce que lui, il le faisait 7 fois plus vite que ceux qui étaient sur Terre. Donc c'est un gros problème. Pour lui, quand est-ce qu'il devait fêter le Shabbat? Gros problème. Parce que le Shabbat, c'est sacré. Hein, vous voyez que ça va loin. Ça va loin. Ça. Et donc, ils se sont réunis en conclave pendant qu'il était là-haut, parce que le problème s'est posé pendant qu'il tournait là-haut. Donc il a posé la question. Il a dit, quand est-ce qu'il fait le Shabbat? En même temps que vous, en Israël, ou quand? Bon. Je sais plus exactement. Enfin, ils ont tranché. Ils savent toujours trancher. Hein. Ils ont toujours trouvé enfin, il leur a fallu un certain temps pour trouver l'argument qui permettait de résoudre le problème. Enfin, simplement pour dire que voilà, le juif, il cherche vraiment à être conforme à la loi. C'est vraiment ça la base. Et le scribe était un juge. C'était un arbitre entre les gens, entre ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est autorisé, ce qui est pas autorisé, selon la loi de Moïse. Hello? Vous me suivez? Donc un arbitre. Donc là, déjà, on a quelqu'un, un scribe qui est déjà très 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 ancré, hein, dans les choses de Dieu. Et pourtant Jésus dit, c'est le scribe qui va trouver le trésor, qui va pouvoir puiser dans ce trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Alors il faut bien comprendre ce que cela veut dire de la part de Jésus. Trouver le trésor. Alors comme j'ai déjà prêché là-dessus, alors c'est quoi le trésor qu'il a trouvé, ce scribe, enfin, qu'il est censé trouver? C'est... Oui, ça va déjà un peu trop loin, on y viendra tout à l'heure. Mais quelque chose d'important, le trésor. Le trésor qu'il est censé trouver, le scribe. Il la connaît déjà, la parole de Dieu. Puisqu'on vient de dire, le scribe, par nature, il connaît la parole, il l'enseigne et il est arbitre. Donc il connaît tellement bien qu'il peut arbitrer entre les conflits par rapport à la parole. Donc la parole, il la connaît. Mais qu'est-ce qu'il ne connaît pas, qu'il va trouver et qui va changer ce scribe en quelqu'un qui va puiser dans ce trésor des choses anciennes et nouvelles? C'est ça qu'il faut expliquer. Oui? Qu'est-ce qu'a dit le royaume? Alors, il faut creuser un peu la notion du royaume, parce que justement, on connaît plus l'Église que le royaume. Hein. C'est notre origine catholique qui fait ça. Tu développes un petit peu ta pensée. C'est celui qui développe le royaume de Dieu. Mais pourquoi? Il ne connaissait pas le royaume avant? Il connaissait la loi, c'est le royaume, non? C'est quoi le royaume? Puisqu'il connaissait la Bible, et il l'enseignait, et il l'arbitrait par rapport à la Bible, donc. Oui, c'est le règne de Dieu. Voilà, donc c'est pas encore bien rentré, la notion de royaume. On va continuer à creuser ça par la suite. En fait, il trouve effectivement le royaume, mais c'est l'évangile du royaume qu'il trouve. C'est l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume? C'est une puissance de Dieu. L'évangile du royaume, c'est Jésus. En fait, il trouve Jésus. Alors? C'est la puissance du royaume, hein, c'est le moteur du royaume. Si vous voulez, c'est le royaume, c'est vrai, mais le moteur, ce qui fait tourner le royaume, le prince du royaume de Dieu, c'est Jésus. Tout pouvoir lui a été donné, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Hello? Vous me suivez? Donc c'est ce scribe-là, qui jusqu'à présent ne connaissait pas Jésus, Et Jésus anticipe, puisqu'il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, en parlant de lui. Puisque quand il commençait son ministère, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, et il s'est approché de lui. Et donc, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus, qui est le centre du royaume, qui est le prince de ce royaume. Et il y a un, quoi comme autre royaume? Il y a le royaume du Bénin, non? Le royaume du Togo? Et le royaume du Madagascar, qu'est-ce qu'il y a comme royaume? Des ténèbres. Est-ce qu'il y en a un autre? Un troisième? Voilà, il n'y a que deux royaumes. Il faut bien avoir notre vision claire sur la réalité de l'enseignement de Jésus. Il n'y a que deux royaumes. Il n'y a pas le royaume de Grande-Bretagne. Non, il y a le royaume de Dieu, qui est incarné par Jésus, prince de ce royaume, et le royaume des ténèbres, dont le prince est Satan. On ne veut pas trop entendre parler de Satan, ça fait Moyen-Âge, mais peu importe, que ça fasse comme ça veut, c'est l'enseignement de Jésus. C'est Jésus qui s'est battu avec ce prince. C'est ce prince qui corrompt toute l'humanité, et donc il faut bien l'avoir présent. Non pas en avoir peur, mais en être conscient que c'est celui qui dirige cet autre royaume. Donc que deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, le royaume de la vérité, et le royaume des ténèbres. Et ce scribe, il découvre le trésor qui est Jésus, qui est l'évangile du royaume. C'est-à-dire, l'évangile, ça prend en compte tout le ministère de Jésus. Hein, puisque les évangiles parlent de Jésus, de son histoire, de son enseignement, etc. Qui est Jésus, hein. Donc, l'évangile du royaume, c'est une puissance de Dieu, et l'apôtre Paul va le dire, hein, c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Amen. Donc pour nous, c'est une puissance de Dieu. Mais ce n'est pas une puissance pour une puissance. C'est une puissance qui est dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus. Alors, c'est pour ça que le seul moyen qu'on puisse être préservé et gardé de l'erreur, c'est d'être dans en Jésus. Parce que en dehors de Jésus, nous sommes confrontés à notre chair, nous sommes confrontés à nos limites, nous sommes confrontés à notre intelligence, nous sommes confrontés à notre capacité de raisonnement, et là, on se perd. On se perd. Et toute la difficulté du chrétien, c'est de rester en Jésus. Parce que il a beaucoup d'influence. Hein, et l'influence de la chair est la première. Regardez, le dimanche matin, c'est pas facile à se lever. Hein, vous avez la chair, enfin la chair de qu'il faut vaincre. Il faut une volonté, il faut... Bon, et on a tout un tas de choses à vaincre. Et ça, on passe par un apprentissage pour ça. Alors, je voudrais vous donner un modèle. Moi, j'aime bien les modèles qui renvoient une réalité. Moïse, il a fait quoi? Un tabernacle qui était le modèle d'une réalité, hein, qui était dans le ciel. D'accord? Vous prenez Ézéchiel, par exemple, et notre sœur aimée. Il y en a qui connaissent la sœur aimée, c'est qui? Il y en a qui connaissent la sœur aimée? Alors là, vous êtes pas des bons Foursquareiens, là. Mac-Aimé, c'est la sœur de, qui a fondé Foursquare. Qui a fondé le mouvement des églises Foursquare. Sœur Aimée, alors ça s'appelle Mac-Person, mais comme elle était mariée deux fois, donc, ça s'appelle Person, mais aussi Saint-Paul, etc. Bon. Donc, on fait la sœur Aimée, il n'y a pas trop d'aimés. Donc, la sœur Aimée, elle a reçu la révélation qui a été donnée à Ézéchiel. Premier chapitre. Et c'est quoi cette révélation? C'est aussi une réalité, mais qui est traduite par un symbole, qui est traduite par un modèle qui renvoie à une réalité. C'est quoi? C'est Foursquare. C'est quoi Foursquare? Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus baptise de l'Esprit. Et Jésus revient. Ça, c'est les ministères de Jésus. Ça, c'est une réalité dans les évangiles du royaume de Dieu, mais qui a été révélée à Ézéchiel sous quelle forme? Sous forme d'animaux. Des animaux. Ce n'était pas le ministère de Jésus dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, vous avez le bœuf, vous avez l'aigle, vous avez le lion et l'homme. Et ce sont ces quatre symbolismes de qui renvoient au ministère de Jésus. Mais ça, il l'a reçu par révélation. c'est pas écrit dans la Bible, ça. Mais c'est par révélation. Et on a beaucoup de modèles. Si on a des bons modèles, je peux vous garantir qu'on peut vivre la vie chrétienne avec beaucoup plus de discernement et rester dans cette voie d'attachement au Seigneur. Et un des modèles, donc, c'est Foursquare, donc, qui est Jésus sauve, Jésus guérit, c'est la coupe qu'il a bu, c'est son sang. Baptiste du Saint-Esprit, donc c'est la colombe du Saint-Esprit, et Jésus revient, qui est la couronne du règne de Christ. Mais le Seigneur m'a montré un autre Foursquare, parce que square, vous connaissez tous le square, c'est français, hein, c'est un square. Voilà. Donc c'est une petite place carré. D'accord? Donc il y a quatre côtés. C'est pour ça qu'on met four, square. Bon, on pourrait dire square, ça suffit, puisque c'est quatre, hein, mais bon. Là, on parle de four square. Donc on a les quatre. Le chiffre 4 dans la Bible, d'ailleurs, renvoie toujours à ce qui est universel, puisque l'est, l'ouest, le nord, le sud, ça prend en compte tout le globe. Hein, donc c'est universel. C'est aussi stable, hein, parce qu'il y a une stabilité. C'est aussi équilibré. Hein, enfin, il y a toutes ces notions-là. Bon, mais ça, c'est du symbolisme. Mais moi, ça, c'est les ministères de Jésus, hein, qui sont anticipés. Moi, je propose un modèle du caractère de Jésus. Et le Seigneur veut que le chrétien ait le même caractère que Jésus, le même tempérament de Jésus, la même personne de Jésus, puisque nous voulons nous identifier à Jésus, donc nous recevons de lui le caractère de Jésus, qui nous permet de vivre la vie chrétienne dans la victoire. Hein ? Il y en a qui veulent vivre la vie chrétienne dans la victoire. Eh bien, c'est que nous puissions recevoir le caractère de Jésus au travers de cette union avec lui. Et pour moi, alors, ça c'est pas dans l'évangile, mais pour moi, les quatre éléments importants de ce caractère, c'est l'amour, hein, parce que Dieu est amour, et Jésus, par amour, il est venu donner sa vie, hein, donc nous pouvons apprendre à vivre le même amour que Dieu dans nos relations, que ce soit de couple, de famille, de voisinage, etc., hein, de l'amour agapé, l'amour de Dieu. C'est la justice, hein, parce que Dieu est juste. Dieu n'a pas de préférence, il arrive à être juste dans toutes les voies, dans toutes ses voies. Est-ce que nous arrivons à être justes? Non. Donc, si nous recevons le caractère de justice de Dieu, nous pouvons beaucoup mieux renvoyer notre témoignage à Jésus. Parce que les gens vont dire, ah, comment peut-il être avoir ce caractère, hein, de justice, hein, en dehors de la justice du salut que nous avons, mais dans notre vie quotidienne, nous pouvons recevoir ce caractère de justice. Ici en bas, je mettrai un P pour la puissance. Hein. Alors, on peut mettre aussi un V pour la vie, hein, parce que Jésus est le prince de la vie, mais je préfère puissance parce que quand Jésus a commencé son ministère, il a reçu la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Hein, c'est le Saint-Esprit qui est une puissance. Et on revoit cette puissance à la création de l'Église. Hein. Il y a un grand vent qui vient et qui délivre la puissance aux apôtres sous forme de langue, de feu. Et il commence l'Église parce qu'on a besoin de puissance, d'énergie, hein, pour accomplir le plan de Dieu. Amen. Et l'autre caractère fondamental, je mets un O, mais là aussi, on a pris beaucoup de temps, et je suis pas sûr que ce soit celui-là qui soit à l'origine du caractère, mais peu importe, je vais l'expliquer, c'est l'ordre, hein, l'ordre des choses. Quand Dieu a créé l'univers, quand il a créé l'homme et la femme, quand il est dans une phase de création, au départ, il y a une masse informe et vide. Il y a une puissance qui est là. Hein, l'univers était un chaos informe, mais il y avait une puissance, il y avait une énergie qui était là, l'esprit planait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu a dit, par sa parole, et qu'est-ce qui s'est produit? Que la lumière fut, et la lumière s'est faite. Donc par sa parole, il a créé un ordre. Il a, d'une part, un ordre par sa parole, mais aussi un ordre dans le cosmos, c'est-à-dire que le chaos s'est séparé, il n'y a plus d'entrechoquement, c'est-à-dire que la vie n'est pas possible sans l'ordre. Vous êtes d'accord? Il faut un certain ordre. Quand il a créé l'homme et la femme, il l'a créé dans un certain ordre. Que ce soit un ordre séquentiel et que ce soit un ordre de structure fondamentale de la personne. Et aujourd'hui, on est encore au bénéfice de cet ordre. Quand une fille naît, elle a un caractère féminin, et quand un gars naît, c'est un caractère masculin. Alors bien sûr, comme les gènes sont extrêmement variés, on peut avoir des choses qui se retouchent un petit peu, mais peu importe, c'est une fille, c'est une fille, un garçon, c'est un garçon. Il y a un ordre, hein, l'ordre des choses. Ça, c'est la stabilité du caractère de Jésus, dans lequel il y a toutes ces choses en même temps. C'est l'équilibre de toutes ces caractéristiques en Dieu et qui ont été données à Jésus. Dieu voudrait qu'on puisse vivre cet amour, cette justice, cette puissance, cet ordre, comme Jésus. Nous n'y arriverons jamais, je vous rassure, mais nous pouvons y tendre. Et plus nous cherchons le royaume de Dieu, plus nous pouvons y arriver. Et ce fameux scribe qui était instruit du royaume de Dieu, en fait instruit veut dire disciple du royaume, quand il devient disciple de Jésus, il peut puiser dans ces choses, des choses anciennes et des choses nouvelles. Et c'est quoi ces choses anciennes et ces choses nouvelles? C'est tout simplement la vérité. En Dieu, il y a la vérité. La vérité, il y a 5000 ans, est toujours la même aujourd'hui. Il n'y a que le mensonge qui change. Hein. Quand vous prenez un mensonge, vous voyez que les mensonges, ils changent. Et ceux qui sont en justice, hein, ils cherchent justement, pendant le temps qu'ils consultent les gens, de voir si le mensonge, il change. Hein. Parce que le mensonge, il change. Parce qu'on est obligé de l'élaborer, le mensonge. La vérité ne change pas. La vérité est la même, c'est un fondement. Et le royaume de Dieu est basé sur la vérité. Allô? Et un scribe qui est instruit de Jésus, il peut expliquer les prophéties qui ont été données sur Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même avec les disciples d'Emmaüs va leur expliquer. Il va prendre toute la parole de Dieu et leur expliquer tous les prophètes, toute la loi et les prophètes qui annoncent Jésus. Donc ce qui était dit avant, c'est la vérité sur Jésus, et cette vérité, elle se révèle différemment, puisque c'est la personne de Jésus, c'est la résurrection de Jésus, etc. Et dans 2000 ans, comme nous sommes aujourd'hui, cette vérité est toujours la même. Alors? Donc nous pouvons tirer des choses anciennes, des choses nouvelles. Quand nous sommes dans la vérité, c'est toujours la même chose. Et c'est pourquoi l'Église véritable, elle est basée sur la vérité. Et quand elle puise en Jésus, on ne peut puiser que des choses qui sont vraies. La vérité. Amen. Alors, je voudrais simplement vous dire que ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que nous sommes tiraillés dans notre chair, qui est imparfaite, à cause du péché, hein, parce que même si nous sommes baptisés, même si nous avons une alliance avec Jésus, nous ne sommes pas immédiatement transformés, à la seconde même, dans le caractère de Jésus. Vous croyez ça? Parce qu'il y en a qui ne le croient pas. Hein. Il y a des chrétiens, des églises chrétiennes évangéliques, qui disent toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien, quand il est baptisé, c'est terminé. Il est, je ne dis pas parfait parce que c'est difficile à dire, mais voilà, et on lui laisse faire n'importe quoi, on ne fait plus de discipline, on ne fait plus rien, parce qu'il est chrétien. Hein. Parce que ça remonte d'une croyance. Hein. Ça remonte à une croyance. Donc, il y a la chair. Il y a le péché, et il y a quoi encore qui nous empêche de vivre cette réalité du caractère de Jésus en nous? C'est classique. Non, ça fait partie de la chair. Donc la chair, le monde et Satan, le prince de ce monde. Alors, il faut pas l'oublier parce que il est là. Hein. Même s'il se fait discret, sauf chez les satanistes où il apparaît, mais ça, laissons tomber, c'est une très petite frange de la société, mais la plupart de nous, nous sommes confrontés à la stratégie de Satan, qui lui s'infiltre de manière insidieuse, comme le serpent. Ok? Et qu'est-ce qu'il fait en l'occurrence sur ce modèle du royaume de Dieu? Il fait la même chose que dans Genèse Qu'est-ce qu'il a fait dans Genèse? La parole de Dieu est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus est le même et les stratégies de l'ennemi sont les mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Tentation? Par quel moyen il a tenté? Par? Et par quel moyen il a utilisé? Pardon? Allez, restez très basique sur la Genèse. Vous connaissez tous la Genèse, là? Oui, mais quelqu'un qui personnifie tout ça. Quelqu'un qui personnifie tout ça, parce que si on commence par parler de l'orgueil, on peut pas parler un tas de choses, mais si on parle de ce que je vous propose de croire, vous aurez tout en même temps. Ben, je vais vous le montrer. Voilà. Le serpent. Il est toujours là. Vous savez, dans le cadre de l'Expo Bible, pas de l'Expo Bible, de Bible dans le Mantois, on fait venir des orateurs. Et encore récemment, on a fait venir un orateur, un bibliste protestant. C'est-à-dire qu'un spécialiste de la Bible, c'est un homme charmant par ailleurs, mais pour lui, et pour le monde protestant, je ne parle pas évangélique, la Genèse est un mythe. C'est un mythe. Il ne croit pas du tout que la Genèse est décrite réellement. Vous savez, un mythe, c'est quelque chose qu'on écrit pour faire comprendre quelque chose. Vous voyez, c'est une illustration qui renvoie au fait que de dire, tiens, oui, je peux comprendre ça, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, le mythe, c'est simplement une image. Enfin, j'explique mal le mythe, hein, excusez-moi. Henri Blocher l'explique mieux que moi, mais il a fait un bouquin là-dessus. Mais juste pour vous faire comprendre que si vous croyez que c'est un mythe, c'est vrai que vous allez vous arrêter là, vous dire, oh oui, ça s'est passé dans la Genèse, c'est terminé. Mais si vous croyez que réellement ça s'est passé, qu'un serpent a été utilisé par Satan pour induire en erreur Ève et Adam, vous allez beaucoup mieux comprendre la réalité de notre difficulté à être chrétien. Ce fameux serpent, il est toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui. Toujours. Pareil. La même stratégie. Et comment est-ce qu'il fait? Eh bien, ce serpent qui est utilisé par ça, et je vous dis que, par exemple, la religion grecque, les ça s'appelle les sophistes, ils adoraient le serpent. Et tous ceux qui sont dans la corruption des choses de ce monde sont des adorateurs du serpent. Hein. Je vous le signale en passant. Moi, j'ai perdu mon truc rouge. Bon, c'est pas grave, je vais prendre le bleu. Ah non, je l'ai là. Donc, le serpent ancien, le diable, est toujours à l'œuvre. Et ce qu'il veut, c'est corrompre maintenant l'évangile de Jésus-Christ. Alors? Vous croyez qu'il se repose? Le prince de ce monde, non? Il veut corrompre l'évangile de Jésus-Christ. Il veut corrompre ce scribe qui a trouvé ce trésor. Et il reste pas là en disant, ah, oh, ben, dommage, il m'a échappé, il a trouvé le trésor, je le laisse tomber. Non, non. Il continue à chercher le séduire. Et comment est-ce qu'il le séduit? Toujours la même chose. Comme dans Genèse. Ça n'a pas changé. Et là, ce que je vous dis là, c'est des recherches, d'années de recherches que j'ai fait pour comprendre aujourd'hui comment ça marche. Hein, ça n'a pas changé. Et ce serpent, eh bien, en fait, il va chercher à ce que les hommes idolâtrent ses caractères. C'est l'idolâtrie. Non pas l'idolâtrie, non pas la soumission à Jésus, parce que ça, il n'en veut pas, mais il veut qu'on idolâtre le caractère de Jésus. Alors, qu'on idolâtre la puissance. Si on idolâtre la puissance ou la vie, à quoi ça va aboutir? Ben, c'est la puissance pour la puissance. Une idolâtrie, c'est toujours une adoration en soi, quelque chose en soi, puisque on s'attache à une chose, que ce soit matérielle ou une idée, et on s'attache pas à Dieu qui est la source de toute chose. Amen. Donc la puissance, l'idolâtrie de la puissance, c'est la puissance pour la puissance. Pardon? Vous avez compris? L'ordre, l'idolâtrie de l'ordre. C'est l'ordre pour l'ordre. Et donc, il pousse les gens, vous voyez, il leur fait pas des grandes incantations spirituelles, oh, machin, etc., comme certains chrétiens pensent, pas du tout. Simplement, il agit dans la société, il pousse les uns à la puissance, pour la puissance, et l'autre l'ordre pour l'ordre. Point barre. C'est tout simple. Et personne ne voit rien. Personne ne voit rien, sauf ceux qui sont instruits des choses du royaume. Donc, il pousse l'idolâtrie, et là, il a assez de facilité, parce qu'en chacun de nous, Donc il construit trois piliers, comme ça. Parce que en chacun de nous, et même ceux qui lisent C.S. Lewis ou Leanne Payne sont familiers avec ça, c'est que dans l'univers, on s'aperçoit qu'il y a deux genres, je ne parle pas des sexes, deux genres qui existent, le genre féminin et le genre masculin. Je ne parle pas du sexe, hein. Je parle du genre, c'est-à-dire une approche des choses. Une approche plutôt intuitive des choses, une approche plutôt rationnelle. Et en fait, il utilise ça. Et c'est en chacun de nous, que ce soit homme, femme. Bien sûr, la femme, c'est plus prononcé d'un côté que de l'autre. Et encore, des femmes, j'ai rencontré des femmes qui sont plus masculines que, enfin, de ce caractère-là, hein, parce qu'elles ont été formées dans les écoles, les business schools aux États-Unis. Et là, il faut produire du business. Et donc, ça peut s'inverser par la formation. Mais naturellement, il y a un genre féminin et un genre masculin. Le genre féminin, c'est tout simplement Ève. Enfin, la puissance de vie, c'est Ève, puisque Ève a produit la vie. Elle a donné naissance à Abel et Caïn. Et comment est-ce que Adam l'a appelé? C'est intéressant si vous regardez la Genèse, parce que Dieu l'a appelé la femme, et Ève l'a appelé, Adam l'a appelé Ève. Et Ève, ça veut dire quoi? La vie. Et il a dit, il a donné la vie. Mais c'est Dieu qui a donné la vie. C'est pas Ève qui a donné la vie. Elle a été un instrument, vous voyez. Et tous ceux qui sont dans les sociétés secrètes, ils adorent Ève. Parce que c'est l'origine de la vie. Voyez-vous? Quand on adore la puissance pour la puissance, on adore les éléments de création. Donc ici, Ève, ça constitue la puissance de la vie. Comme si la puissance de la vie, la femme pouvait le donner. Donc elle incarne un petit peu ce côté-là de la société. Ce côté-là, l'ordre, ben c'est Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam, qu'est-ce qu'il a donné comme voilà domination sur les êtres, sur le jardin, sur il a donné. En fait, il a donné la gestion plutôt que la domination, mais bon, c'est le verbe domination qui est utilisé. Mais quand on est l'ordre pour l'ordre, on cherche la domination, effectivement. Et ça, vous le retrouvez. Alors là, j'ai pas le temps ce matin, mais dans toute l'histoire. Vous voyez cette corruption qui se fait adapter à chaque société. Celui du milieu, c'est l'androgynie, c'est-à-dire les deux en même temps. Ça, vous le trouvez partout dans toutes les sociétés secrètes. C'est androgyne, hein. C'est l'idéal, c'est la sagesse suprême pour devenir Dieu, hein, pour diviniser. Parce que l'idée du serpent, c'est dire tu deviendras Dieu. Si tu manges à cet arbre, ça c'est l'arbre de la connaissance, ça c'est l'arbre de la vie, tu deviendras Dieu. Vous prenez Moïse. Il y en a qui connaissent la Kabbale? Le nom. Ben, la Kabbale, après les rabbins, ça remonte à Moïse. C'était des traditions orales, comme d'ailleurs au temps de Moïse, il y avait aussi des traditions orales. Hein, la parole de Dieu a été transmise oralement. Et donc la Kabbale s'est transmise oralement. C'est-à-dire c'est des connaissances secrètes qui ne sont pas préservées tout à chacun. Il faut rentrer dans certains cercles pour les savoir, pour les chercher. Des connaissances secrètes, la Kabbale, sur l'interprétation de la Bible. De la Bible. D'ailleurs, toute la Genèse est réinterprétée différemment. Et d'ailleurs, vous le retrouvez dans Timothée, dans 2 Timothée 7, on verra ça aussi à la rentrée, quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme de parler dans l'Église. » Ok ? Vous vous rappelez ce passage-là qui était utilisé dans les églises évangéliques pour empêcher les femmes de parler ? Parce que Paul l'a dit. Et en fait, ça remonte à ça. Parce que dans le développement de son argumentation, il dit « Mais ceux qui enseignent ça, ils disent que c'est la femme qui est venue en premier. Et la Bible dit que c'est Adam. Pourquoi? C'est complètement ridicule. Pourquoi ce débat entre la femme et l'homme? Bon, la Bible dit que c'est l'homme et la femme. Bon. Parce que c'est très important pour cette corruption du serpent. Parce que le serpent met tout à l'envers. C'est-à-dire qu'il est contre Dieu, donc systématiquement, il dit le contraire. Et donc, il enseigne que c'est la femme qui a donné la vie. Alors, je ne rentre pas dans les détails d'argumentation de comment ils s'y prennent, mais c'est très subtil. Et donc, à l'époque de Moïse, la Kabbale a commencé à tordre les récits en disant « Moïse a reçu des révélations qu'il ne vous a pas dit, c'est pas écrit, mais ceux qui sont au bénéfice de ces secrets, ils les connaissent. » Jésus, au temps de Jésus et des apôtres, eh bien, la Kabbale a été écrite pour la première fois. a été écrite, comme le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament a été écrit, la Kabbale a été écrite. Au temps de la Réforme, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un moine a découvert des textes anciens de ça et les a amenés à Florence. Et à Florence, Côme de Médicis, qui est un très grand intellectuel, eh bien, il a fait la Kabbale chrétienne, la Kabbale mystique chrétienne. Et tout le christianisme, je parle catholique, catholicisme, repose sur cette Kabbale mystique chrétienne. Et c'est à chaque fois ce schéma-là qui est utilisé pour devenir un dieu. Et aujourd'hui, c'est surtout le Nouvel Âge, puisque le bouddhisme a été rationalisé pour le rendre accessible aux occidentaux. Et quand vous parlez un français, ils veulent très souvent, les intellectuels, d'être bouddhistes, parce que c'est une sagesse supérieure. Donc tout ça, ça a été intégré. Voyez-vous, donc à chaque époque, et je passe des détails, l'ennemi construit le royaume de Dieu sur la corruption du royaume, le royaume du monde, sur la corruption du royaume de Dieu. C'est-à-dire que presque tout est pareil, presque tout, sauf des petites choses. Et c'est là que les chrétiens se font avoir, et surtout dans les églises évangéliques. Et je le remarque, parce qu'ils ne connaissent pas ces modèles qui sont des modèles qui renvoient à des réalités. Ici, ce sont des systèmes qui sont en place pour pousser certains à chercher les miracles. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il y en a certains qui... Non, c'est Paul qui le dit dans Corinthiens, il dit « Certains cherchent les miracles, donc la puissance, et d'autres cherchent la sagesse. La sagesse au sens de l'ordre, c'est-à-dire du logos, hein, c'est ce qui donne l'ordre des choses. Les Français aiment bien ça. Ici, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Jean Brun. Bon, je vous conseille pas de le lire parce que c'est un vocabulaire assez compliqué, mais bon, il est très bien connu. Alors, presque aucun Français le connaît, mais tous les Américains le connaissent. Jean Brun, il a vécu, je crois, à Bordeaux. Il est mort il y a quelques années. Et c'est un théologien, un peu du style C.S. Lewis. Il écrit des livres, Le Retour de Dionysos. Il explique très bien comment la société fonctionne. C'est quelqu'un qui a bien compris les choses. Et Dionysos, c'est ici. En fait, il y a deux dieux. Il y a Dionysos et Apollon. Et ceux-là, ils sont à Paris très très en exergue. Parce qu'ils représentent, dans ces religions païennes, des symboliques. Ici, c'est la destruction sauvage, la vie sauvage. Et ici, c'est Apollon, c'est comme le soleil est réglé, un ordre parfait, apollinien, comme on dit, etc. Et tout ça, c'est inscrit dans notre façon, dans notre société, comme elle est construite. Et les chrétiens boivent ça. Ils boivent ça par les médias, par la télévision, par les films, par tout un tas de valeurs, etc., qui insufflent ces choses-là. C'est pas neutre. Toute la société est remplie de cette corruption du caractère de Jésus pour faire croire que c'est ça qui est vrai. Et c'est de ça que nous devons nous immuniser. Déjà savoir que ça existe aujourd'hui, que c'est pas simplement un mythe de l'Ancien Testament, mais que c'est des choses qui nous gouvernent. Et si nous voulons être un scribe, disciple du royaume de Dieu, disciple de Jésus, disciple du caractère de Jésus, être ambassadeur du royaume de Dieu, nous devons fuir la corruption. Ça, vous êtes tous d'accord. Mais comment la fuir, si ce n'est d'en savoir les ressorts qui la gouvernent? Et si nous connaissons le ressort, nous avons plus de chance. Bien sûr, si vous étiez quelqu'un de très spirituel, qui vous levez tous les matins à 3 heures, que vous fassiez vos... Pardon, j'exagère. Mais bon, la vie quotidienne est ce qu'elle est, etc. Et puis, bon, notre spiritualité est ce qu'elle est. Mais, par exemple, savoir que aujourd'hui nous sommes encore en danger et que nous devons nous prévenir, en particulier des instructions qui nous proviennent de la société, et avoir cet esprit critique, ce jugement du scribe qui arbitre entre la puissance et l'ordre, qui arbitre entre l'esprit et la parole. Voyez-vous, il y a un arbitre. Dans le caractère de Jésus, il y a un arbitrage. Dieu agit. Il fait une manifestation spirituelle. Oui, mais est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu? Parce qu'il y a des manifestations qui ne viennent pas de Dieu. Donc là, il faut un arbitre, il faut la parole. Mais si je suis entièrement dédié aux puissances, je cherche la puissance pour la puissance, eh bien, j'arbitre pas. Et à ce moment-là, je tombe dans l'excès et je me fais entraîner. Voyez-vous? Le piège. Et de l'autre côté, il y a des chrétiens lui disent, moi, pour me préserver des manifestations qui sont pas bien, j'interdis tout ça. Et je me plonge dans la parole, et je creuse la parole, et j'annonce la parole, et je veux que tous les chrétiens soient conformes à la parole. Mais la parole, elle est pas statique, elle est vivante. Donc elle est adaptable. Elle est adaptée à chaque époque. Et donc là, il faut du discernement, donc il faut un arbitrage. Et cet arbitrage existe en Jésus, qui nous aide à communiquer lorsque nous sommes en lui, entre la puissance et l'ordre, entre l'amour et la justice. Voilà, c'est juste un petit aperçu de ce que nous allons creuser un petit peu pour nous donner des éléments pour devenir plus forts dans le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, l'ennemi met le paquet. Par exemple, Harry Potter, pour ceux qui savent, quand ils sont arrivés au troisième film, je sais pas, il y en a quatre. Je sais plus. Dix. Enfin, je sais plus à quel moment, c'est le quatrième ou le cinquième. Harry Potter. Oui, film. Bon, vous voyez, je suis pas trop ça. Bon, je connais Harry Potter, mais dans les détails, je suis perdu. Mais je sais qu'à un moment donné, c'est assez tôt. Ils ont interviewé la dame. Je crois que c'est une dame, hein, qui a écrit. Voilà. Il lui a interrogé, il dit, mais il y a quand même des choses sataniques là-dedans, enfin, occultes et tout ça. Il a dit, oui, mais maintenant ça a passé. Terminé. Les premiers sont passés, maintenant ça passe. L'ennemi, à partir du moment où il arrive à modifier la conscience un peu des gens, au travers de cette corruption, bien sûr, il y a un point critique, parce que la raison humaine a quand même une certaine sagesse en soi, mais quand ils arrivent à passer, ils disent, maintenant c'est passé. Parce que c'est un peu comme un médicament, quand vous le prenez, à un moment donné, vous êtes un peu irrité, puis après, ça vous fait plus rien. Vous voyez, c'est pareil. Le serpent, il agit avec tact, parfois mieux que les chrétiens dans leur domaine. Il sait c'est où il veut arriver, il prend son temps. Le Nouvel Âge, par exemple. Le Nouvel Âge a été fait par Madame Blavatsky en 1875. C'est une Russe qui était chassée de... L'autre nom de... Moscou, enfin bon, c'est Moscou, c'est pas Moscou. Stalingrad, pas Stalingrad, enfin bref. Pétersbourg, Saint-Pétersbourg. Elle était là, elle est venue à Paris, et après elle est à New York. Elle a créé le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est croire ça en mettant toutes les religions mondiales ensemble, et vous avez une religion qui intègre le bouddhisme, le christianisme, tout. Et vous, voilà. Ah ben, ce Nouvel Âge, elle a dit, dans 100 ans, ce sera public. C'était secret pendant 100 ans. Et en 1975, ça a été rendu public. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez trouver tous les trucs du Nouvel Âge. Pourquoi ? Parce qu'il fallait garder pendant un temps secret, et ensuite, après, les gens, ils boivent comme du petit lait. Ils ne voient plus rien. Parce que la conscience a été tellement modifiée que les gens, ils avalent ça comme des poissons qui gobent tout ça, y compris les chrétiens. Donc, nous sommes dans les derniers temps où l'ennemi, il sait, il pense gagner, il va perdre, mais il entraîne tous ceux qui peuvent avec lui dans son sillage. Donc, soyons des personnes averties, soyons sur nos gardes, encourageons-nous les uns les autres à rester unis en Christ. La solution de rester unis à Christ, l'union en Christ, c'est ça que tous les apôtres ont martelé dans leurs épîtres. Soyez unis en Christ. Quand nous sommes unis en Christ, eh bien, nous recevons le caractère de Christ. Nous recevons les attributs de Dieu qui sont en Christ. Nous pouvons être dans l'amour, dans la justice. Nous pouvons exercer la puissance et exercer l'ordre dans un équilibre que seul Dieu peut nous donner. Amen. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui a besoin. L'Église de France a besoin de ça. Pourquoi en France, la seule Église qui a vraiment percé, c'est l'Église de Pentecôte ? Parce qu'elle a opéré dans le domaine de la puissance et des miracles. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu rééquilibrer avec l'ordre. Et bon, ça devient un petit peu un composite. Quand c'est pas de Dieu, vous voyez, c'est difficile. Mais c'est toujours difficile, ça sera pour nous aussi difficile. Donc soyons humbles, mais vigilants. Comme le Seigneur l'a dit, soyons comme des serpents rusés. Et comme des colombes qui sont vraiment dans cette paix et dans cette sérénité. Comme ce matin on l'a lu, Pierre et Jean, ils ont dit, tout ce que j'ai, je te l'offre dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Le Seigneur nous aide. Il nous accorde sa grâce. Père, nous te remercions parce que, Seigneur, toi tu règnes et nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Nous te prions de nous garder, nous préserver, Seigneur, de toute chose qui pourrait nous faire du mal, et de nous ouvrir les yeux sur la manière dont l'ennemi s'infiltre dans nos pensées, au travers des films, au travers de ce que nous lisons, de ce que nous regardons, de ce que nous véhiculons, de ce que la manière dont nous habillons, enfin peu importe, toutes les choses, petites ou grandes, peuvent nous influencer dans ce système, Seigneur, qui nous détruira. Mais Seigneur, tu veux que l'Église soit une en Jésus-Christ. Et Seigneur, cette autorité, cette intégrité, nous pourrons l'avoir qu'en toi. Et nous te demandons cette grâce, en particulier pour ici, pour Bergenville, où nous sommes confrontés à des difficultés, bien sûr, pour l'évangélisation. Nous avons besoin de ta grâce, afin que nous puissions passer au travers des mailles du filet, Seigneur, pour toucher les cœurs et leur apporter la vérité, afin qu'ils puissent saisir cette vérité, être transformés. Nous voulons voir des gens transformés ici, dans cette ville. C'est pourquoi nous-mêmes, nous voulons être transformés, particulièrement déjà pour cette cérémonie d'action de grâce de William, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander d'être des témoins, afin que les personnes qui sont là puissent voir une église remplie de cette présence de Jésus. Et nous te louons pour cela dans le nom de Jésus. Amen.